Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RMC. Je vous dis tout, ça papote déjà, ça sourit en studio, mais oui, il y a de la bonne humeur. Même un peu de chaleur, en tout cas de la chaleur humaine ce matin sur RMC avec vous pour vous accompagner évidemment en direct comme tous les matins, vous les courageux de la nuit. Parce que là il fait encore nuit, certains sont déjà sur la route, déjà au boulot, certains sont encore tranquilles à la maison, peut-être sous la couette. On est tous ensemble pour vous accompagner, peu importe où vous êtes, n'est-ce pas Anaïs Castagna?
Mais bien sûr, bonjour Charles et bonjour à tous.
Bonjour Anaïs, bonjour Géraldine Demory.
Salut tout le monde.
Géraldine chargée de surveiller les températures, le thermomètre.
Ah ça y est, ça va baisser.
Voilà,
là.
Le verdict est tombé, bah, il fait à peine 3 degrés à Chamalières aujourd'hui, nous dit Monique.
À côté de Clermont-Ferrand.
À côté de Clermont, pardon, soyons précis, pour la régionale de l'étape, Géraldine Demory. On va saluer aussi, tiens, Jean-Claude qui nous écrit « Bonjour Charles, bonjour les filles ». Bon, ça je crois que c'est pour vous, Géraldine et Anaïs. À l'écoute
salut,
tous les matins, salut Jean-Claude. Continuez comme ça, je suis sous la couette à l'écoute. Eh ben, on salue Jean-Claude, mais oui, sous la couette.
On a dit qu'il y avait de la chaleur.
Bah voilà, je vois que ça provoque des émotions à Anaïs de vous savoir sous la couette, Jean-Claude. De bon matin, 4h27 sur RMC, vous allez avoir toute l'actualité ce matin. On va aussi sourire, on a plein d'histoires à vous raconter, mais on a surtout ce débat sur lequel on a hâte de vous entendre. Cette question qui va peut-être vous surprendre, accrochez-vous bien. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les députés se plaignent et souhaitent alléger un peu leur rythme de travail?
Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour réfléchir à un changement de fonctionnement. Après 6 mois de mandat, beaucoup font part de leur fatigue et de leur difficulté à suivre le rythme. Plusieurs pistes sont avancées. Mettre fin aux séances de nuit, réserver une semaine par mois à la présence en circonscription ou encore suivre les séances en visioconférence.
Alors, est-ce que vous comprenez ces députés-là qui se plaignent de leur rythme de travail? Ils ont une réunion aujourd'hui pour trouver des solutions, pour alléger un peu le rythme. Géraldine Demory, je vois que ça te fait lever les yeux au ciel.
Ouais, je veux bien que ce soit difficile, mais enfin, c'est peut-être pas les plus à plaindre non plus. Ils pourraient faire ça un petit peu plus discrètement dans le contexte qu'on vit quand même.
Non, mais c'est évidemment choquant dans le contexte. Enfin, évidemment choquant, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on les voit aussi à 3h du matin.
Nous aussi, on est là à 3h du matin.
Ils disent on bosse 70 heures par semaine, on n'a pas le temps d'être en circonscription, encore moins de voir notre famille. Est-ce que vous les comprenez ou pas? C'est vous qui allez nous le dire ce matin, parce que ce sont nos élus, nos impôts, leur salaire, c'est vos représentants aujourd'hui qui disent on n'y arrive pas, on travaille trop, le rythme est trop soutenu. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir alléger un peu leur planning pour passer plus de temps dans leur circonscription ou avec leur famille? Ou au contraire, vous trouvez que ces complaintes des députés sont indécentes? C'est vous qui allez avoir la parole ce matin, on vous attend tout de suite. Là, le 32-16 vient d'ouvrir, là, Quentin vient d'arriver au standard, il attend vos appels, vous n'hésitez pas et on vous prend en direct sur RMC dès que vous composez le 32-16 ou bien vous nous envoyez un petit message sur notre appli avec Direct Studio.
Il y aura aussi tous nos rendez-vous dans mon choix, notamment ce matin à 5h10, je vais vous parler de celui qui va bientôt trôner dans votre salon, le sapin de Noël. Quand faut-il l'acheter pour qu'il soit encore tout beau à Noël? À quel prix et quel modèle? Naturel, artificiel? Je vais tout vous dire. On va aussi sourire grâce au meilleur d'Arnaud Demange. On retrouvera Anthony Morel pour C'est déjà demain, Manuel Le Chip pour l'économie et notre story Coupe du Monde avec Thibaut Texer évidemment.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 4h41. Alors est-ce que vous comprenez ces députés qui souhaitent alléger leur rythme de travail?
C'est la question du jour sur RMC.
Le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui avec au menu des discussions une question: comment travailler un peu moins? En tout cas, rendre le fonctionnement, le rythme de travail plus soutenable. Car vous allez l'entendre, de plus en plus de députés osent dire qu'ils sont KO, crevés par leur rythme de boulot infernal, selon eux. On va d'abord regarder les faits. Anaïs, est-ce que ça a changé ces derniers temps le rythme de travail des députés?
Si on regarde les statistiques de l'Assemblée, on voit que les députés passaient plus de temps dans l'hémicycle en 2017, mais le temps en commission a progressé, 16 heures de plus en 2022. Ce qui a changé, c'est qu'avec la majorité relative, les députés ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse sur certaines séances, car si trop de députés sont absents, un camp risque de perdre le vote sur un texte. L'autre changement important, c'est le profil des députés. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup plus d'hommes retraités. Maintenant, il y a aussi des jeunes pères et des jeunes mères qui doivent concilier leur activité à l'Assemblée avec leur vie de famille.
Ouais, et résultat, justement, plusieurs députés osent aujourd'hui se plaindre de leur rythme de travail, à l'image de la députée du Rassemblement National du Var, Laure Lavalette.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine frustration de pas pouvoir aller en circonscription, par exemple, parce qu'on passe entre 60-70 heures par semaine à voter la loi, ou que ce soit d'abord en commission et après dans l'hémicycle. Je suis députée du Sud, donc globalement, j'ai quand même 5 heures porte-à-porte de trajet, donc ce qui n'est pas rien, parce que quand on termine un soir à minuit, je ne peux prendre le train que le lendemain et arriver en début d'après-midi en circonscription. Et puis, il y a la vie familiale. Pour l'instant, elle est un peu secouée, elle est un peu remuée. Je passe mon temps à dire à mes enfants que je vais les rappeler, et globalement, je ne les rappelle pas.
Alors, la Valette du Rassemblement National, qui n'est pas la seule à se plaindre, Hélène Tarzian du service politique d'RMC, s'est rendue hier à l'Assemblée et elle a rencontré plusieurs députés qui ont du mal à suivre le rythme.
On cumule nuit à légiférer après nuit à légiférer.
Avec des sessions qui s'étirent parfois jusqu'au petit matin, certains députés ne tiennent plus debout. L'écologiste Sandra Rogol s'est récemment retrouvée au bord du malaise.
Sur le trajet vers la sortie de l'Assemblée, je me suis allongée avec la tête et les pieds surélevés. Et c'était un allongement de prévention avant que ma tension tombe beaucoup trop bas. Je sais qu'il y a d'autres députés qui ont eu des soucis aussi.
Il y aurait même une hausse des consultations auprès de la médecin de l'Assemblée, voire des cas de burn-out. Même Éric Woerth, député chevronné, sent la différence avec les précédentes législatures. La majorité relative et les débats passionnés imposent d'être plus souvent en séance.
Ça veut dire que les députés, ce n'est pas qu'ils sont épuisés, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'aller suffisamment dans leur circonscription. C'est cette organisation qui est problématique.
Dédié certains jours pour être en circonscription, pourquoi pas, mais hors de question pour le député Renaissance Mathieu Lefèvre de se plaindre.
Je refuse ce procès en surcharge de travail. On a été élus pour faire la loi. Et si on doit travailler jour et nuit, on travaillera jour et nuit.
Discours d'un député francilien, forcément mieux loti.
Reportage signé Hélène Tarzian, vous l'entendez dans les couloirs de l'Assemblée, ces députés qui se plaignent. On va regarder au menu de cette réunion aujourd'hui, Anaïs, quelles sont les pistes envisagées pour leur alléger un peu le rythme de travail?
Sanctuariser le vendredi en circonscription, permettre aux députés d'arrêter à 20h une ou deux journées par semaine, limiter les séances de nuit à une semaine, voire carrément changer totalement le fonctionnement de l'Assemblée en siégeant deux ou trois semaines par mois, et le reste du temps, eh bien, le député resterait en circonscription. Mais c'est encore loin de faire consensus a priori.
Bah alors, dites-nous ce matin au 32-16, est-ce que vous les comprenez, ces députés qui disent, bah, avec ce rythme, on fait mal notre travail, et puis surtout, on n'a plus le temps d'être en circonscription, on n'a plus le temps de voir nos familles. On va accueillir, tiens, Laurent, au 32-16, depuis Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Salut Laurent.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Comment ça va ce matin, Laurent?
Ben ça va très bien, je vous remercie de me prendre à l'antenne.
Ah
oui, il pleut pas aujourd'hui, donc c'est plutôt agréable.
Voilà. Ben parfait, vous êtes levé tôt pour le boulot, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille en grande surface.
D'accord.
Je suis cadre en grande surface, donc le magasin va pas tarder à ouvrir pour commencer à travailler.
Et donc sur la route et du boulot, RMC, dans la voiture, et vous réagissez au 32-16, ça vous a fait réagir, hein, ces députés qui se plaignent, on va le dire comme ça, de leur rythme de travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent? Est-ce que c'est indécent ou est-ce que vous pouvez les comprendre là quand ils disent on bosse 70 heures par semaine, on n'a plus le temps de bien travailler?
Moi, je les comprends et je me suis même étonné que ça ne soit pas déjà changé, régularisé. Moi, j'ai besoin que mes députés ils soient en forme pour voter les lois. Qu'on les fasse voter à 3 heures du matin, je ne comprends pas. Ils travailleraient de nuit ou en 3-8, mais quelqu'un qui commence la journée normalement et qui finit par voter des lois à 3 heures du matin, je ne suis pas persuadé qu'il soit vraiment au meilleur moment de sa journée pour réfléchir et voter correctement, ou en tout cas échanger dans l'hémicycle correctement. Donc oui, je pense qu'il faut que ça change. Il faut que, comme tout salarié, comme tout travailleur, il faut qu'il y ait un minimum de correction dans les horaires de travail pour que ça puisse bosser correctement. Et je préférerais qu'ils passent du temps à les préparer, à réfléchir ce qu'ils peuvent vraiment amener d'intéressant, plutôt que finir à faire 50 amendements pour bloquer des lois ou autre.
Oui, donc pour vous, en tout cas, il y a un sujet. Voilà, il y a un sujet sur le rythme de travail des députés. On va voir, Laurent, si tout le monde est d'accord au 32-16. Je vois que Khalid aussi nous a appelé de l'Oise. Salut, Khalid.
Oui, bonjour l'équipe. Bonjour Charles, Anaïs.
Bonjour. Salut, Khalid, électrotechnicien, c'est ça, hein, si j'en crois la fiche que j'ai sous les yeux. Levé de bonne heure. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme Laurent, vous dites, bah, ils ont raison, c'est pas possible leur rythme de travail, là où ils se retrouvent à bosser à 3 heures du matin?
Bah, je rejoins, je dirais, en infime partie Laurent. Mais par contre, je rejoins aussi ce qu'avait dit Géraldine en début d'émission quand elle avait dit qu'ils auraient pu ne pas en parler, quoi, faire ça entre eux. Derrière aussi, on peut pas faire comme s'ils étaient pas au courant. Donc avant de prendre le poste, si je puis dire, ils étaient au courant.
Ça, je suis assez d'accord, Khalid. Oui, voilà, personne les a forcés à se présenter. Hein.
Bah, c'est tout à fait ça. Donc derrière, je dirais que on a l'impression qu'ils découvrent un peu le poste. Après, je rejoins Laurent dans lequel, quand il dit que il faut qu'ils soient assez lucides pour botter les doigts. Bon, après, bon, il faut voir de quelle loi on parle, hein, parce que des fois, c'est des lois qui n'ont aucun sens, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mmh. Mais bon, ok, qu'il y ait de l'allègement sur le planning, je veux bien, mais au prorata du salaire dans ces cas-là. C'est comme nous, hein, si on fait moins d'heures travaillées, donc c'est moins d'heures payées, si je puis dire. L'allègement, ok, mais bon.
Alors, ça, j'entends Khalid, a priori, c'est pas au menu des discussions aujourd'hui. Hein. Ils vont juste parler du. Ils n'ont pas prévu de décider entre eux de baisser leur salaire, a priori.
Non, mais hein. Qui passe une journée avec une infirmière, et puis derrière, comme je l'ai dit dans le message, on pourra en reparler, mais au-delà de ça, il y a lieu de se plaindre. Mais bon, de là, je pense que c'est une question d'organisation qui s'organise entre eux. Bon, après, il faut être là. Pour qu'ils aient le plus
mais,
de votes.
Mais vous avez raison, Khalid, il y a un problème de contexte, de calendrier, là, en ce moment, les problèmes de pouvoir d'achat, d'énergie, etc. Enfin, on sait que c'est très dur en ce moment pour des millions de Français.
Oui, voilà.
Est-ce que c'est le moment de mettre ce sujet sur la table? Je pose aussi la question à Laurent, parce que Khalid est d'accord, Laurent, avec vous, pour dire oui, en effet, c'est peut-être pas une bonne idée de voter les lois à 3h du matin, quand tout le monde est crevé. Et en même temps, Laurent, est-ce que c'est le moment, voilà, de mettre ce sujet sur la table à l'Assemblée, de voir nos élus dire, oh là là, on va alléger un peu le planning?
Oui, c'est le moment. C'est,
okay. Ça ne vous choque pas quoi, dans le contexte. Ok, non, mais j'entends.
Il faut pas cacher les choses. Si on les cache, après, de toute façon, dans une semaine, on va en parler, on va dire qu'en 12, ils ont fait quelque chose. Non, s'ils veulent modifier les choses, il faut le faire ouvertement.
Oui, mais ils auraient pu se dire, laissons passer l'hiver qui va être difficile sur les questions d'énergie, de pouvoir d'achat, etc. Et on reparlera de ça au printemps. Voilà, ce n'est pas forcément le moment, là, de. Vous voyez ce que je veux dire? De faire passer ce message de, oulala, nous, on est crevés, on va lever le pied, quoi.
Je pense qu'ils ont bien fait de le mettre maintenant.
Ouais, d'accord.
Attendre 3 mois de plus aurait pu décourager. C'est pas forcément, en plus, un hémicycle où il y a beaucoup d'expérience. Donc, ils ne savaient pas forcément qu'ils allaient faire des journées comme celle-là. Et je pense qu'aucun salarié aujourd'hui en France n'a le droit de faire des journées comme celle-là.
C'est vrai.
Après,
aussi.
Moi, les députés travaillent pour moi. Je suis leur employeur. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils aient à faire 70 heures par semaine dans de mauvaises conditions pour faire du travail bâclé. Voilà, je fasse efficacement et plus résumé dans la journée.
Et ben ça s'entend très bien vos arguments, Laurent, ce matin. Merci d'être venu partager votre opinion. Merci et défendre vous. Quelque part voilà cette position des députés. Khalid, un dernier mot?
Je dirais que ils le font passer quand ça les arrange.
Ouais.
Voilà.
Ok. Khalid, merci voilà. Aussi d'être
en
venu.
Ça, pour les petits coups de douce, ça c'est toujours en douce, mais là quand ça les arrange, oui.
Bah, en tout cas, là, c'est pas vraiment en douce, parce que nous, on a repéré cette réunion aujourd'hui, donc on a souhaité la mettre à la une et en parler avec vous, parce que oui, il n'y a pas de raison que ça se fasse en douce, mais il y a un vrai sujet sur, voilà, c'est nos élus, et en effet, Laurent a raison, il faut aussi que la loi soit votée dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on tolérerait dans d'autres métiers de bosser comme ça 70 heures par semaine, avec un planning qui bouge tout le temps, des séances de nuit? Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Laurent, c'est pas vraiment des salariés comme les autres. Voilà, c'est les représentants de la nation, ils font la loi, c'est pas un job comme les autres. On va continuer à en débattre, hein, ce matin, vous entendez, hein, les arguments de Laurent, de Khalid, qu'on remercie d'être passé de bon matin comme ça par le 32-16. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous choque ou pas que les députés veuillent alléger leur rythme de travail? Vous aussi, vous prenez la parole ce matin en toute liberté, évidemment, vous le savez. Au 32-16, on va continuer à en parler avec vous juste après 5h. Et puis après 5h, ne bougez pas, il y aura aussi beaucoup de choses. Un cadeau d'abord à gagner avec la voix du jour juste après les infos. Il y aura aussi le choix d'Anaïs.
Je vais vous parler de Norman et de ses copains, les sapins qui vont bientôt envahir nos salons. Quand faut-il les installer? Quel prix faudra-t-il débourser cette année? Et quelles sont les tendances? On va y revenir à 5h10.
Voilà, vous saurez tout sur le sapin avec Anaïs juste après 5h. Et puis dans un instant, tiens, c'est toute la bande qui va venir avec ses histoires. Mais oui, les infos insolites, les infos conseils aussi, des infos sourire tout de suite sur RMC. Et tiens, il me semble qu'il y aura aussi une petite ambiance un peu Noël aussi, hein, dans les histoires qu'on va entendre avec toute la bande de Charles Matin dans un instant.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Et oui, c'est notre nouveau rendez-vous, toute la bande qui vient partager ses histoires, les infos qu'elle a repérées. Alors il y a Anaïs, bien sûr, vous l'entendez, mais aussi Géraldine Demory, Arthur Asquin. Bonjour Arthur.
Bonjour Charles.
Producteur, ou encore Quentin Dubois, Quentin du Standard, comme le veut sa vraie particule.
Bonjour.
Salut Quentin. On va commencer, tiens, première histoire, ce sera pour Géraldine ce matin.
Et vous savez que j'adore Noël.
Oui, donc, non. C'est original. Un parti pris audacieux, Géraldine.
On va parler d'un chant de Noël un petit peu particulier. C'est la chorale de Fussipitz qui a décidé de reprendre donc un chant de Noël, mais en se servant de ses aisselles. Alors ça donne ça.
Ça pourrait être ça. Charles, ça.
Ah, Charles pourrait faire partie du groupe. Bon, là, ils sont quatre musiciens.
J'ai pas attendu Noël. Moi, j'avais pas besoin de prétexte pour me lancer dans la chanson.
Il y a des musiciens un peu particuliers. Il y en a un qui a des grelots sous les bras. Il y en a un autre avec une espèce de longue touffe dont elle se sert comme d'un violon. Et puis, évidemment, il y a le plus classique prout avec la main plaquée sous l'aisselle. Figurez-vous qu'ils sont quand même dans la course pour devenir le single numéro 1 de Noël au Royaume-Uni.
Incroyable.
Alors, vous avez tous reconnu la chanson de base? Non, c'était. Et je vous en parle. Alors, c'est pas juste parce que c'est rigolo, quoique, mais parce que les bénéfices iront à une association qui protège les océans de la pollution plastique. La quantité de plastique que l'on jette chaque année est ridicule. Pourquoi pas faire une chanson ridicule pour trouver une solution?
Voilà. Mais non, mais comme quoi, voilà, on ricane au départ sur cette histoire des selles, et en fait, c'est très sérieux, et ils sont en passe d'être. Le titre numéro 1 au Royaume-Uni.
Je vous en parle, s'il devient numéro 1.
Ah bah évidemment, une forme d'humour british. Oui, voilà, si on a un prétexte pour réécouter la chanson, ben voilà, on l'entend, c'est parfait. Bah tiens, restons dans cette ambiance Noël pour l'histoire de Quentin Dubois. Il me semble qu'on parle aussi... Ah bah oui, tiens, tu parlais de ridicule à l'instant, Géraldine. Parlons avec Quentin du pull moche de Noël. Mais oui, c'est bientôt la journée du pull moche. Et pour ne pas se ruiner, Quentin, t'as une solution pour changer de pull chaque année, une friperie qui nous propose de changer de pull chaque année.
Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'autour de la table, on en a tous un. On est plutôt bon là-dessus. En général, chaque année, on est assez organisé. Maintenant, est-ce que vous en achetez un tous les ans?
Non. Oh, bah non, quand même.
Moi, j'en ai pas. Ah, bah, on va se cotiser, on va en offrir.
Bah, alors,
c'est sympa. Merci. Il faut qu'on en trouve un.
Après, c'est frustrant de ne pas pouvoir en acheter tous les ans parce qu'il y a quand même des modèles sympas. La solution, elle a été trouvée dans la Manche à Cherbourg-Octeville. Julie Vigée, qui a ouvert la première friperie de la ville il y a 3 ans, a lancé un nouveau concept, les pulls de Noël à la location. Ça permet de faire des économies et c'est éco-responsable.
Alors, comment ça se passe si je veux en louer un pour Arthur?
Alors, il y en a pour 14 euros, donc ça va. 5 euros de location et 9 euros de caution pour une semaine. Le même prix qu'un pull à la vente si vous trouvez la perle rare parmi les 150 modèles de la boutique. Et ça se passe donc du 1er décembre jusqu'à début janvier dans la boutique La Friperie Cherbourgeoise. Et pour la journée du pull de Noël, notez tous, c'est le 16 décembre, vendredi 16 décembre.
Ah bah c'est coché dans l'agenda. Attends,
tu rigoles. Et il y a quelques mauvaises langues dans cette régie qui me souffle, Arthur, que tu n'as pas attendu Noël pour porter des pulls moches. Il est 4h56, justement, Arthur, à ton tour. Arthur Asquin qui tenait ce matin à nous parler de la belle histoire de cette chatte miraculeusement retrouvée.
Oui, Cassiopée avait disparu en 2013 au cours du déménagement de ses maîtres. Après d'intenses recherches, ils avaient fini par abandonner tout espoir de revoir leur gros matou. Mais il y a quelques jours, un refuge près de Narbonne recueille cette chatte errante sur la voie publique. L'animal est âgé, affaibli.
Alors comment ils ont retrouvé les propriétaires?
Et bien en fait, après un post sur Facebook, le refuge est contacté par l'association Félin Possible. On apprécie le jeu
de
mots.
Ah oui, il y a un jeu de mots. Voilà, Félin, le chat. Félin Possible, ok, je l'ai.
Ouais, tu l'as. Grâce à la puce électronique, en fait, et ben ils ont retrouvé les coordonnées de la maîtresse. Habitant le nord de la France, elle a sauté dans un train pour rejoindre Cassiopée, qui n'a pas été avare de l'échouille lors des retrouvailles avec sa maîtresse. Et cette histoire, elle rappelle évidemment qu'il faut faire pucer son chat.
Oui.
C'est obligatoire normalement, mais c'est toujours bon de le rappeler.
Évidemment, important de le rappeler. Bon, parfois ça se finit bien comme Cassiopée, mais voilà. c'est pas toujours le cas. Faites pucer vos chats et vos chattes. C'était le message d'Arthur ce matin. On a parlé Noël, on a parlé matou. Parlons maintenant musique avec Anaïs. Toi, Anaïs, tu veux absolument nous signaler toutes ces tournées qui ont été annoncées hier. Il y en a pour tous les goûts. Hein.
Ouais, d'abord, avis aux fans de Metallica, le groupe de heavy metal américain qui a dévoilé ça hier. Extrait de leur prochain album qui sortira en avril 2023. Le groupe va faire une grande tournée mondiale à partir de l'an prochain, tournée qui s'arrêtera au Stade de France les 17 et 19 mai 2023. La billetterie ouvre à 9h vendredi matin. Je ne sais pas si vous êtes fan autour de la table. Sinon, il y a autre chose. J'ai autre chose en boutique dans un style très différent. The Weeknd sera également en France l'année prochaine à l'Alliance Riviera de Nice. Tiens, Charles, le 22 juillet, au Stade de France le 29 et à la Matmout Atlantique de Bordeaux le 1er août 2023.
Ah, j'aimerais bien les voir.
La Matmout, oui.
À la fameuse Matmout de Bordeaux. Donc on rappelle, hein, deux dates pour Metallica en France au mois de mai, deux stades de France et puis trois stades en France pour The Weeknd cet été, l'Alliance Riviera, le Matmout, comme dit Anaïs, Atlantique de Bordeaux et un stade de France aussi.
Moi, je suis team The Weeknd.
Ouais, bah, j'aimerais bien faire les deux, moi, Metallica et The Weeknd, voilà, les deux événements musicaux, deux annonces du jour qu'on voulait vous signaler.
On a les moyens.
Avec. Oui, non, je. Oui, il va falloir faire des choix.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Anaïs qui ce matin a choisi de nous concocter un choix spécial sapin de Noël.
Mon beau sapin.
Parce que ça y est, on commence à en voir chez tous les fleuristes, dans tous les supermarchés. De nombreux Français vont profiter du premier week-end de décembre pour aller l'acheter. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment, Anaïs ?
Bah, on est tous pressés de l'installer, notamment ma fille aînée.
Moi, je veux tout de suite.
Mais chérie, c'est pas si simple. Moi, je veux pas un sapin tout rabougri le 24 au soir. Faut pas s'y prendre trop tôt. Enfin, ça dépend du sapin. Pour le Norman, vous pouvez l'installer dès ce week-end.
Ah, okay.
Il tiendra le coup. En revanche, pour l'épicéa, faut attendre le 20. Et pour les sapins
en pot... Il faut attendre
le 20 ? Le 20 décembre, ouais. C'est tard, hein. C'est hyper tôt. Mais
faut
sinon,
attendre le 24 au matin.
Sinon, il tiendra pas le coup. Et puis un sapin, eh ben, ça s'entretient. Ça ne se met pas n'importe où. Pas de radiateur à côté. Évitez l'exposition à la lumière. Et n'hésitez pas à l'humidifier. Mais évidemment, s'il n'y a pas de guirlande électrique.
Ah oui, merci du conseil. Donc, il y a cet éternel débat, Norman, épicéa, qu'est-ce qui est le mieux ?
Le Norman est donc plus costaud, mais l'épicéa, bah, sent bon Noël. Il est moins cher aussi. Prix de base, une vingtaine, trentaine d'euros contre une trentaine, quarantaine d'euros pour le Norman. Mais il y a aussi le Nobilis, plus touffu et légèrement bleuté, donc plus onéreux, d'autant que c'est une part minime de la production.
Mais alors justement, ils viennent d'où ces sapins ?
Son parcours c'est très simple, ma Liliane. Tu sais, t'es un sapin. Tu viens généralement du fin fond de l'Europe de l'Est, en Ukraine. Mmh. T'es arraché très jeune à ta famille sapin. Tu traverses l'Europe en camion dans le froid. Ouais. Tu finis toujours dans le froid sur le parking d'une zone indus quelconque. Tu attends qu'on te choisisse. On te choisit. Tu finis dans un appartement de banlieue. On te met des boules et des guirlandes et quand la fête est finie, on te jette.
Non, la plupart de nos sapins naturels sont produits en France, Charles, en Bourgogne, en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Donc d'un point de vue écolo, c'est pas si mal. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'un sapin artificiel qui a un bilan carbone beaucoup plus important. Faudrait le garder 20 ans pour qu'il soit plus rentable écologiquement parlant.
Oui, il y a l'argument écolo, mais c'est quand même moins cher.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est le sapin artificiel qui remporte le match. D'autant que cette année, les prix des sapins naturels vont certainement augmenter parce que les coûts de production ont explosé pour les producteurs français. Plus 10%. 6 millions de sapins sont vendus tous les ans en France. 80% sont des sapins naturels. Sinon, l'autre solution, c'est de créer son sapin en bois. C'est la grande tendance et il y a plein de tutos sur Internet.
On va ensuite prendre le gros chevron qu'on vient venir couper en deux pour former la base de notre sapin.
Ouais, autrement dit, c'est pas pour moi trop compliqué. En plus, niveau déco, t'es limité. Alors que ce qu'on aime avec les sapins, c'est de pouvoir innover, changer de couleur, par exemple.
On est sûr du doré, hein ?
Ah ben oui, on est sûr.
On doute plus.
Mais non,
c'est élégant. Hein ?
Très élégant.
Le doré, c'est une valeur sûre avec le rouge, le vert. Mais sinon, y a des vraies tendances. J'ai regardé, Charles. Ouais. Cette année, la mode, c'est les sapins blancs, les couleurs pastel ou le style campagne anglaise apparemment. Moi, tiens, je vais peut-être faire ça et je le mettrai dès ce week-end pour faire plaisir à ma fille.
C'est bête hein, de se laisser mener comme ça par un gosse.
Bah oui, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on les met, les sapins.
Ah bah oui, c'est pour les enfants, hein. Si ça tenait qu'à moi. Évidemment, mais c'est un plaisir le moment de décoration.
Et ça sera quand
sapin.
Pour Charles Magnin?
Peut-être ce week-end ou plus tard le suivant, mais il y a l'autre défi dont tu n'as pas parlé, c'est avoir dans le même appartement un sapin et un chat. Et ça, c'est voilà, c'est un autre suspense.
Alors là, le conseil à donner, c'est de
se débarrasser du chat.
Non,
c'est le conseil d'Anaïs.
C'est d'installer un premier temps le sapin. Quelques jours, il faut laisser le chat s'habituer au sapin, et ensuite tu mets les boules.
D'accord. Ok.
Tu tenteras et tu me diras en retour d'expérience.
Tu me donneras ton top pour les boules et puis je m'y mettrai. Voilà. Mais il y a quelques jours d'acclimatation avant les boules, j'ai bien compris. Merci pour le conseil vraiment complet sur les sapins ce matin d'Anaïs Castagna. 5h14 sur RMC. On revient au débat à la une ce matin, ce qui vous fait réagir. C'est cette réunion aujourd'hui à l'Assemblée. Les présidents de groupe ont rendez-vous. Le bureau de l'Assemblée se réunit pour décider de la manière dont les députés pourraient alléger leur planning de travail. Ils sont nombreux à dire qu'ils sont chaos, épuisés par ces séances interminables, 70 heures de séances, de commissions chaque semaine. Ils disent qu'ils n'ont plus le temps d'être en circonscription, de voir leur famille, et que donc il faut réaménager, alléger le planning pour les députés. Ça vous fait réagir comme Ahmed, qui a composé le 32-16 depuis Romainville, en Seine-Saint-Denis. C'est ça ? Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ce matin,
bonjour
Ahmed?
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à toute la France.
Oui, exactement. Ahmed, le veto pour le boulot, là, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis conducteur de bus à la RATP depuis 17 ans.
Ah, bah on parle beaucoup de vous. En ce moment, vous êtes dans l'actualité, vous êtes un des derniers. J'exagère, mais on parle beaucoup des démissions, des difficultés de recrutement. Vous conduisez les bus de la RATP dans quel coin, là, le matin?
Bah, en fait, là, je suis sur Porte des Lilas. Donc, je conduis la ligne 96. Donc, là, je suis pas encore sorti du centre, mais.
Ouais, non, mais ça m'arrive de le prendre, donc c'est pas impossible qu'on se croise. Ahmed, un de ces quatre à bord du bus. Bon, mais vous, ce qui vous a fait composer le 32-16 ce matin, ce sont ces députés qui se plaignent de leur rythme de travail. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, en fait, ça m'inspire que j'ai envie de leur passer un petit message, mais assez courtois. Hein. Faut tenir bon, en fait. Faut tenir bon, c'est la fin de l'abondance. Donc, il faut se dire qu'un mandat de 5 ans qui donne une retraite de 700 euros par mois à vie, ça va quand même, non?
Oui, vous trouvez qu'ils ont des salaires et des avantages qui font qu'ils n'ont pas à se plaindre, si je comprends bien.
Non, je pense pas que c'est seulement leur salaire et leurs avantages. C'est simplement que, en fait, c'est pour tout le monde, en fait. Aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux qui enchaîne un deuxième boulot parce que c'est difficile. La moitié d'entre nous n'arrive même plus à se soigner, on n'arrive plus à chauffer la maison, on fait les courses, on regarde tout en bas, les produits les moins chers. Donc à un moment donné, oui, effectivement, eux, ils ont les trains gratuits, ils ont quelques avantages, et c'est lié justement à la difficulté de leur métier, et parce que bah, il faut mailler le territoire avec des élus qui sont représentatifs de tout l'ensemble du territoire, ça on peut comprendre. Donc ça c'est un peu justifié, les trains c'est normal, ils doivent se déplacer, et tout, il n'y a pas de problème. Après,
oui, mais eux, ils disent qu'on n'a même plus le temps de
c'est
rentrer.
C'est pas un salaire. Déjà, c'est pas un salaire, les députés, c'est une indemnité.
Oui, c'est vrai.
Lorsqu'on est indemnisé, en français, lorsqu'on est indemnisé, c'est qu'on doit être dédommagé par rapport à un dommage. Donc, le dommage, c'est le don de leur personne à la République pendant 5 ans. Ils vont donner leur vie. Pendant tout leur mandat, ils se sont donnés. C'est ce qu'on appelle l'abnégation.
Oui, pour vous, quand on se présente à la députation, quand on obtient ce mandat d'élu pendant 5 ans, on n'a pas à compter ses heures. Ensuite, on met sa vie perso, on met tout le reste de côté et pendant 5 ans, on travaille nuit et jour pour les Français, quoi.
Bah, en fait, c'est un petit peu le lot de tous les médecins internes, par exemple, tous les personnels soignants, les infirmières, qui mettent leur vie familiale de côté pour travailler toute leur vie pour des salaires à 1700 euros, 1500 euros. Les internes qui sortent de 5 ans d'études, 6 ans, 7 ans d'études en médecine, qui font des gardes de 24 heures des fois à l'hôpital, dans des conditions extrêmes, hein, parfois. Et qu'ils n'ont pas. Voilà.
Oui, mais après, on peut fait, entendre. Vous entendez, Ahmed, ces députés qui disent bah oui, mais ils font des choses importantes quand même. Ils votent la loi. Ils disent on ne peut pas faire ça n'importe comment à 3 h du matin. Il faut qu'on ait un cadre de travail un peu plus régulier, strict, qui permette d'être serein quand on travaille, d'avoir le temps d'aller un peu en circonscription aussi, entendre les Français avant
mais
de voter la loi.
Mais c'est aussi des services publics. Est-ce que le médecin interne, il a un assistant, il a un suppléant? Il n'a pas tout ça, lui?
Oui, c'est vrai. Non, mais vous, en tout cas, vous estimez voilà, que c'est pas le moment, en tout cas vu le contexte, et vous nous le rappeliez sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie, de se plaindre de leur rythme de travail. Voilà, c'est pas le moment, en tout cas, de mettre ça sur la table. Et quand on est député, oui, vous avez raison de rappeler que c'est pas un salaire, c'est
nous,
une indemnité,
par exemple,
c'est un mandat.
À la RATP, on a récupéré Jean Castex.
C'est vrai. C'était son premier jour.
400 000 euros l'année, c'est pas mal quand même, non?
Oui. Non, mais c'est vrai que Jean Castex après.
Là, c'était trop dur d'être au gouvernement. Il s'est dit voilà, bon, allez, un petit peu.
C'est pas lui qui a décidé de sa date de départ du gouvernement, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est le nouveau patron de la RATP. On va avoir l'occasion d'en reparler hein, parce qu'il a eu une première journée hier animée. Mais en tout cas, Ahmed, merci d'être venu témoigner ce matin au 32-16.
Merci à vous,
RMC. Évidemment, on est là avec vous.
Merci à vous de donner la parole à tout le monde.
Vous voyez, Ahmed, il suffit de composer le 32-16, vous qui êtes un lève-tôt. Là, vous prenez à quelle heure le volant du bus ce matin, Ahmed?
Bah, 5h43, je vais commencer.
Eh bah, c'est très précis, bon courage, bonne route avec RMC, évidemment. On vous accompagne sur la ligne 96 ce matin, dans les rues de Paris, Ahmed, qui a composé le 32-16. Vous faites hein, comme Ahmed ce matin, vous prenez la parole, évidemment, ça vous fait, vous aussi, j'en suis sûr, réagir. Ces députés qui se plaignent de leur rythme de travail. Je vois que, voilà, il y a Ahmed qui nous dit que c'est pas le moment, que c'est indécent et qu'ils ne doivent pas compter leurs heures. Juste avant 5h, on avait Laurent qui nous disait, bah non, moi, je les comprends tout à fait, j'ai pas envie que mes élus votent la loi n'importe comment à 3h du matin en étant crevés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut que les députés travaillent un peu moins? En tout cas, que le planning de l'Assemblée soit aménagé différemment. Vous n'hésitez pas, vous prenez la parole. On va continuer à en débattre avec vous au 32-16. Et puis, dans toute cette actualité, on a besoin de sourire, de souffler le matin. Et ça, c'est Arnaud Demange qui s'en charge, qui nous fait marrer dans Apolline Matin tous les jours. Et tout de suite, le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC.
RMC, Charles Matin.
c'est tous les jours de manche.
En Chine, Arnaud, la contestation grossit contre la politique zéro Covid. On assiste même à des manifestations.
Oui, alors les étudiants notamment, ou même les ouvriers de la plus grosse usine d'iPhone ont protesté pour que même des ouvriers chinois se plaignent d'un truc. Pauline, c'est vraiment que ça doit être abusé quand même. Les gars, ils bossent 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pour 20 euros. Ils vivent dans des barres d'immeubles qui feraient passer la Courneuve pour Saint-Trope. Et ben même pour eux, c'est trop. Vous vous rendez compte, c'est comme si Depardieu disait « Non, non, arrête, là j'ai trop bu, désolé, je peux pas. » Ou c'est Jean-Luc Lahaye qui dit « Désolé, chouchou, t'es trop jeune. » C'est vraiment que ça va trop loin. Alors, j'ai vu une vidéo où des habitants de Shanghai scandent « Xi Jinping, démission !»« Xi Jinping, démission !» Exactement comme en France, quand on scandait « Macron, démission !» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Chine, c'est vraiment le pays de la contrefaçon. Ils copient sur nous tout le temps. Ça devient drastique jusqu'à l'absurde. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette info, mais il y a une dizaine de personnes qui ont péri dans un incendie parce que les pompiers n'ont pas pu accéder jusqu'à eux à cause des restrictions sanitaires. C'est-à-dire qu'en Chine, pour vous protéger d'une mauvaise grippe, on vous laisse brûler maintenant. En Chine, ils préfèrent que tu meurs en bonne santé. On comprend même plus pourquoi les mesures anti-Covid du régime chinois sont sévères à ce point. Nous, ça fait un bail qu'on a torché l'affaire quand même. On dirait qu'ils savent pas déconfiner. Alors, on peut leur prêter un spécialiste, on en a un. Je propose qu'on leur envoie Jean Castex. Ah, bonjour à tous, bonjour. Comment c'est la Chine, c'est plein de Chinois. Je les imagine confinés comme des petits pois. Bon, un peu de bonne humeur. Alors, où sont mes lunettes ? Chinoise, Chinois. Monsieur Jinping m'a demandé de l'aide pour votre déconfinement. Alors, en phase 1, dans les régions de Shanghai, Pékin et Chongqing, les écoles seront fermées. Mais les usines resteront ouvertes. Et oui, il faut bien occuper les enfants. Et Noël approche, l'Occident aura besoin de jouets. Au restaurant, si vous mangez assis, vos baguettes pourront servir de bâtonnets d'autotest nasopharyngé, à condition que le test soit espacé du repas d'au moins 4 heures. Et si vous sentez l'odeur du repas sur votre baguette, c'est que vous n'avez pas perdu l'odorat et donc que vous êtes négatif. Et oui, d'autres règles vont suivre. Alors l'idée, c'est que les gens aient l'impression d'avoir un peu de liberté, mais que la règle soit suffisamment compliquée pour que personne ne puisse sortir au final. Et oui, c'est chinois, hein, ça reste à la chinoise. Malinx, le lynx, futex, le castex. Il serait parfait. Allez, à demain.
RMC, Charles Matin. C'est tous les jours de manche.
Et on a déjà hâte de retrouver Arnaud tout à l'heure, 7h20, 8h20, en direct dans Apolline Matin. Il est 5h25, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC, la voix du jour.
Et c'est Olivier qui a été le plus rapide pour jouer avec nous à la voix du jour ce matin. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Bonjour Olivier, comment ça va d'abord ?
Ça va bien.
Ouais, vous êtes dans le Loiret, à Orléans précisément. Olivier, qu'est-ce que vous faites lever de si bonne heure ?
Je me prépare pour partir au travail sur Paris.
Ah, sur Paris carrément, vous faites Orléans-Paris tous les jours ?
Ouais, c'est pas loin.
Ah, c'est pas loin, il y a quand même une petite trotte. Non, vous le faites en train, c'est quoi ? C'est une heure
en
et demie ?
Train, ouais. En train, une heure et demie, on va dire plus.
Ouais, ouais, bah quand même, une bonne heure et demie.
Et ouais, comme si on habitait dans le Val d'Oise pour aller dans Paris.
C'est vrai. Ouais, même parfois encore plus près de Paris et avec les bouchons, ça peut mettre une heure et demie. Et Olivier, qu'est-ce que vous faites à Paris ?
Je travaille pour Pôle emploi.
D'accord, ok. Donc, voilà, avec un lever tôt pour prendre le train pour le boulot, mais évidemment, lever tôt avec RMC et vous avez même tenté votre chance à la voix du jour.
On va voir si vous avez reconnu la voix du jour. On réécoute la voix entendue juste après le journal de Marguerite. On aura votre réponse juste après.
Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois.
Alors, Olivier, est-ce que vous l'avez reconnu ?
Oui, c'est Monsieur François Ruffin.
Bravo, Olivier, vous avez reconnu François Ruffin, le député insoumis de la Somme, qui sera l'invité d'Apolline de Malherbe, hein, tout à l'heure dans le face-à-face, 8h30, 9h sur RMC et BFM TV, mais qui dès maintenant vous permet de remporter
Une magnifique montre, champion de la marque Kelton, conçue et assemblée en France pour arriver à l'heure à Paris, puisque vous prenez le train tous les jours, vous devez guetter les horaires.
Mais oui, la montre des champions du monde avec les deux étoiles.
Deux étoiles sur le cadran.
On vous l'envoie, Olivier, la montre Kelton, on vous l'envoie à Orléans ?
Oui.
Et ben voilà, on fait comme ça, Olivier qui se réveille avec RMC. Olivier, ben on vous souhaite bon courage, bon trajet vers Paris.
Merci.
À très vite, Olivier, au 32-16. Et ne quittez pas, on va prendre vos coordonnées hors antenne pour vous envoyer votre cadeau. Et la Voix du Jour revient demain dès 5h pour récompenser les leftos. Il est 5h27, avant les infos, avant la météo, l'info bonus. Géraldine Demory arrive, mais Anaïs...
Oui, j'ai peur.
Oui, le lapsus de bon matin. Anaïs Castagna qui tient à nous parler, tiens, des bons conseils cuisine de Joey Starr.
Ouais, ça peut surprendre, Joey Starr, on le connaît surtout pour ça. C'est la bombe, ça vient de sonner, tu reconnais. Et pour ses rôles au cinéma, mais c'est aussi en food cuisine et du bien manger. Il a déjà lancé un magazine sur le sujet l'an dernier. Et là, il sort carrément un guide bistronomique avec 150 adresses de professionnels, des boulangers, des bouchers, des restaurateurs partout en France. Écoutez ce qu'il a confié à BFM TV. Ils lui ont demandé quels étaient ses plats préférés.
Là, c'est la saison des Saint-Jacques. Je pense que je pourrais en manger au moins une fois par jour. Moi, j'aime bien travailler la patate douce, par exemple, des choses comme ça. Je suis un viandard, donc ça aussi. Je serais capable de manger le même aliment quasiment toute la semaine parce que je vais arriver, je vais le faire différemment.
C'est marrant de l'entendre parler comme ça de sa passion pour les Saint-Jacques ou de sa passion pour la patate douce, exactement. Il donne aussi des idées recettes. Il y a des petits clins d'œil d'ailleurs à NTM, puisqu'il propose notamment la recette du suprême de pintade et de la tartine NTM, une nectarine Tom Mante. Je ne sais pas si ça te dit, Charles. Moi, la seule tartine NTM que je peux vous proposer pour l'instant, c'est celle-là. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre.
Les conseils gastronomiques de Joey Starr. Donc, comment ça s'appelle, le guide bistronomique de Joey Starr? Bah, pourquoi pas? Il aura vraiment tout fait, avec Joey Starr. Et donc, il aime les Saint-Jacques et la patate douce. L'info est notée. Et le reste de l'info, c'est dans un instant, c'est le journal de Quentin Vinet.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna. Charles Magnin.
Il est 6h20 sur RMC. Bon réveil à tous. Est-ce que vous comprenez, tiens, que les députés veuillent alléger leur rythme de travail?
C'est la question du jour sur RMC.
Et oui, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui. Au menu de cette réunion, une question. Comment travailler un peu moins? En tout cas, rendre le fonctionnement, le rythme de travail plus soutenable. Car vous allez l'entendre, de plus en plus de députés osent dire qu'ils sont KO, crevés par un rythme infernal de boulot, selon eux. On va d'abord regarder les faits. Anaïs, est-ce qu'aujourd'hui les députés travaillent réellement plus qu'avant?
Si on regarde les statistiques de l'Assemblée, on voit que les députés passaient plus de temps dans l'hémicycle en 2017. Mais le temps passé en commission a progressé 16 heures de plus en 2022. Ce qui a changé, c'est qu'avec la majorité relative, les députés ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse sur certaines séances. Car si trop de députés sont absents, un camp risque de perdre le vote sur un texte. L'autre changement important, c'est le profil des députés. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup plus d'hommes retraités. Maintenant, il y a aussi des jeunes pères, des jeunes mères qui doivent concilier leur activité à l'Assemblée avec leur vie personnelle.
Ouais, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs députés osent dire, devant les caméras, devant les micros, qu'ils en ont marre. En tout cas, ils se plaignent de leur rythme de travail. À l'image, tiens, de la députée du Rassemblement National du Var, Laure Lavalette.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine frustration de ne pas pouvoir aller en circonscription, par exemple, parce qu'on passe entre 60-70 heures par semaine à voter la loi, ou que ce soit d'abord en commission et après dans l'hémicycle. Je suis députée du Sud, donc globalement, j'ai quand même 5 heures porte-à-porte de trajet, donc ce qui n'est pas rien, parce que quand on termine un soir à minuit, je ne peux prendre le train que le lendemain et arriver en début d'après-midi en circonscription. Et puis, il y a la vie familiale. Pour l'instant, elle est un peu secouée, elle est un peu remuée. Je passe mon temps à dire à mes enfants que je vais les rappeler, et globalement, je ne les rappelle pas.
Laure Lavalette, hein, du RN, qui n'est pas la seule à se plaindre, Hélène Terzion du service politique d'RMC, s'est rendue hier à l'Assemblée où elle a rencontré plusieurs députés qui ont du mal à suivre le rythme.
On cumule nuit à légiférer après nuit à légiférer.
Avec des sessions qui s'étirent parfois jusqu'au petit matin, certains députés ne tiennent plus debout. L'écologiste Sandra Regol s'est récemment retrouvée au bord du malaise.
Sur le trajet vers la sortie de l'Assemblée, je me suis allongée avec la tête et les pieds surélevés. Et c'était un allongement de prévention avant que ma tension tombe beaucoup trop bas. Je sais qu'il y a d'autres députés qui ont eu des soucis aussi.
Il y aurait même une hausse des consultations auprès de la médecin de l'Assemblée, voire des cas de burn-out. Même Éric Woerth, député chevronné, sent la différence avec les précédentes législatures. La majorité relative et les débats passionnés imposent d'être plus souvent en séance.
Ça veut dire que les députés, ce n'est pas qu'ils sont épuisés, c'est qu'ils n'ont pas le temps
d'aller suffisamment dans leur circonscription. C'est cette organisation qui est problématique.
Dédié certains jours pour être en circonscription, pourquoi pas, mais hors de question pour le député Renaissance Mathieu Lefèvre de se plaindre.
Je refuse ce procès en surcharge de travail. On a été élu pour faire la loi. Et si on doit travailler jour et nuit, on travaillera jour et nuit.
Discours d'un député francilien, forcément mieux loti.
Sanctuarisé le vendredi en circonscription, ça fait partie des pistes que...
Pardon. Ben oui Anaïs, t'as raison, non, mais il y a plusieurs pistes qui sont envisagées.
Je vais tout dire, je suis partie toute seule alors que tu étais censée me lancer, mais j'avais hâte de dire quelles étaient les pistes envisagées. Il y a aussi permettre aux députés d'arrêter à 20h, une ou deux journées par semaine, mais encore plein d'autres choses.
Oui, les députés, voilà, vous l'entendez, hein, qui mettent des pistes sur la table, oui, être plus de temps en circonscription, arrêter aussi de voter les lois à 3h du matin. On a vu ces scènes d'invectives ces derniers jours à l'Assemblée. Ça vous fait réagir ce matin, je le vois très nombreux sur l'appli Direct Studio. Je crois qu'au 32-16 aussi, il y a beaucoup d'appels. On va accueillir, tiens, Cédric, qui est boulanger dans le Finistère. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Cédric Leveto, bah évidemment pour le boulot en tant que boulanger. Vous êtes où précisément dans le Finistère?
On est à Beille, à côté de Quimperlé.
Ok, est-ce qu'on peut donner le nom de la boulangerie, faire un peu de pub là, tant qu'on y est?
La boulangerie de Beille.
La boulangerie de Beille, voilà. Et elle ouvre à quelle heure?
On ouvre à 5h le matin.
Ah oui, déjà ouvert là, à 5h44. Bah, y a donc,
en fait, il y a beaucoup d'usines autour et ils font les 3-8. Et en fait, quand ils sortent de l'usine, au moins ils ont les pains au chocolat chaud.
Voilà,
et,
c'est génial. Voilà. Vous vous adaptez aussi à la clientèle et ça, c'est très sympa. Bon, Cédric, je suis passionné par la boulangerie, mais on vous avait appelé ce matin pour réagir à ce que vous entendez là, ces députés qui disent on n'arrive plus à suivre le rythme, il faut réduire un peu la voilure pour qu'on ait plus de temps en circonscription, plus de temps en famille et le temps de mieux voter la loi. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça?
Après, moi je pense qu'ils ont tort parce qu'ils se sont présentés pour un mandat et ils savent à quoi s'attendre. Quand nous on voit le temps de travail qu'on passe, moi en tant que boulanger artisanal et je fais 100% maison, je fais tout 100% maison. Et quand je les entends se plaindre, je me dis, mais venez chez nous, venez faire un stage à la boulangerie, vous verrez ce que c'est de travailler, d'avoir un travail acharné, parce que moi je travaille 6 jours sur 7, donc je fais du 2h du matin jusqu'à des fois 20h le soir, je m'arrête même pas le midi pour manger, parce que sinon on n'arrive pas à produire tout ce qu'on produit. Donc quand je les entends se plaindre, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Ils ont un salaire conséquent, nous, en tant qu'artisans, on a des salaires de misère. À un moment donné, il faut le dire. Et eux, ils sont encore en train de se plaindre. Mais à un moment donné, qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils retournent à la vie civile et qu'ils laissent leur place à quelqu'un qui veut vraiment travailler pour la France. Je veux dire, à un moment donné, quand on a un bébé, mon bébé, c'est ma boulangerie. Donc, je fais tout pour qu'on s'en sorte. Donc, à un moment donné, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire en sorte que la France s'en sorte. Mais je vois rien. On voit rien. Je veux dire, nous, avec l'électricité, on est en galère. Personne nous aide. On n'entend rien, ça bouge pas. Je veux dire, ils nous ont envoyé une lettre de l'Assemblée comme quoi ils allaient faire quelque chose pour nous, mais il faut faire des choses concrètes.
Mais j'entends très bien ce que vous dites, Cédric. Vous avez raison sur le côté, ils se sont fait élire en connaissance de cause. Personne ne les a forcés à se présenter. Ils connaissaient les règles du jeu, donc c'est un peu... Je comprends pour vous que ce soit presque indécent de les entendre se plaindre 6 mois après de leur rythme de travail. Et j'en profite, Cédric, puisque vous nous parlez là de l'énergie, est-ce que vous qui travaillez dur, qui avez du mal à vous en sortir, est-ce que vous voyez est-ce que ça va passer là après l'hiver, les factures d'énergie? Est-ce que vous savez déjà combien vous allez payer en janvier, février sur vos factures d'énergie?
Non, j'ai pas de nouvelles pour le moment, donc j'attends et on verra bien. Et donc, je pense que si rien n'est fait, je pense qu'il y a la moitié des boulangeries artisanales qui vont disparaître.
Parce
qu'on ne pourra pas payer. Là, moi, à l'heure actuelle, je paye 2 000 €. Si demain on me fait x5, je ne pourrai pas payer 10 000 €.
C'est pas
possible. Donc, je ferme. Et je pense qu'il y a la bonne moitié des artisans boulangers qui sont dans mon cas. Donc, si rien n'est fait, en plus, on a eu les matières premières. Par exemple, on prend un exemple tout simple, le beurre. En début d'année, le beurre, je le payais 4,50 €. Là, on est rendu à 9. Et en janvier, on nous annonce 11, 12. La farine va encore augmenter de 10%. Donc, à un moment donné, on parle toujours de l'électricité, mais il n'y a pas que l'électricité. Il y a les matières premières. Il y a la clientèle aussi, parce que si nous, ça augmente pour nous, la clientèle, ça augmente aussi pour eux. Donc, à un moment donné, leur pouvoir d'achat est plus faible. Et à nous, on nous dit, la baguette, faut l'augmenter. Le ministre de l'économie a dit, les boulangers pourront augmenter leur baguette. Mais si moi, il fallait que je la vende réellement au prix qu'il faut que je la vende, c'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'eux, ils sont sur leur piédestal. Là, ils se rendent pas compte de notre vie à nous. Je veux dire, moi, mon client qui vient, qui me dit, bah, moi, demain, mon pain au chocolat, moi, je l'ai pour 1,05€. Et si demain, je les augmente à 1,20€, il va me dire, moi, je peux plus l'acheter. Donc, je vais avoir de la perte de chiffre d'affaires. Et c'est tout lié. Plus ils augmentent, mais moins nous on peut faire de marge, parce que on parle toujours de marge, mais c'est la réalité. C'est la marge qui compte pour nous, parce que ben on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est le système.
Merci, merci Cédric.
On peut pas augmenter.
Non mais vous avez très bien posé les termes du débat. Voilà, à l'heure où vous-même vous savez pas si vous pourrez payer vos factures en janvier, c'est évidemment indécent pour vous d'entendre les députés se plaindre de leur rythme de travail. Et plus largement, vous revenez sur cette question de l'énergie. Aujourd'hui, il y a cette manifestation des bouchers. C'est inédit depuis 20 ans, les bouchers qui vont être devant l'Assemblée. Mais ils ne sont pas les seuls mobilisés. Tous les commerçants, et notamment les commerçants des métiers de bouche, comme vous, les boulangers, sont aussi mobilisés depuis plusieurs semaines pour alerter sur leur situation. Au gouvernement, on n'arrête pas de répondre oui, on va mettre en place un amortisseur sur l'énergie, etc., des aides spécifiques. Mais on attend d'en voir la couleur et de voir comment ça va fonctionner. On va en savoir plus sur RMC ce matin. Cédric, je vous signale un rendez-vous à 7h40 tout à l'heure. On va parler justement des artisans en danger dans Apolline Matin avec le président de la Confédération française de la boucherie charcuterie, Jean-François Guillard. Mais il y aura aussi Frédéric Roy qui est lui aussi artisan boulanger à Nice et qui appelle à se mobiliser aujourd'hui. Donc voilà, Cédric, soyez au rendez-vous à 7h40. Et puis d'ailleurs, dès 6h10, l'énergie, on va en parler aussi parce que c'est aussi ce qu'on a appris hier. La centrale à charbon de Saint-Avold s'est remise à tourner hier en France. Et oui, parce que pour passer l'hiver, on rouvre une centrale à charbon extrêmement polluante. Cette question de l'énergie, c'est le cœur de l'actualité. Et vous l'avez très bien dit, Cédric, tout est lié en ce moment. Du prix de la baguette à l'ouverture d'une centrale à charbon, tout est lié en ce moment sur cette question. Et c'est pour ça que c'est le sujet ce matin à la une sur RMC. Je vous remercie, Cédric, d'être passé par le 32-16. Vous aussi, vous n'hésitez pas ce matin à venir témoigner en toute liberté au 32-16 sur RMC. Et puis à 5h50, on a rendez-vous avec deux hommes dans un instant. C'est déjà demain, Anthony Morel qui va nous présenter un robot policier. Et puis on va sourire avec l'histoire d'Arthur Asquin. 5h52, on jette un coup d'œil aux trois infos à la une ce matin, Anaïs.
Les bouchers charcutiers mobilisés contre la hausse des coûts de l'énergie. Ils manifestent à partir de 11h ce matin en tablier devant l'Assemblée. La centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle a redémarré pour sécuriser l'approvisionnement du pays en électricité. Les salariés ont été rappelés. Et puis le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale du mondial au Qatar en battant l'Uruguay 2-0. Le Brésil file aussi en huitième après sa victoire 1-0 contre la Suisse.
Et à 5h53, on part dans le futur avec Anthony.
C'est déjà demain.
Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
On part même à San Francisco, où la police pourrait bientôt avoir recours à des alliés assez terrifiants dans la lutte contre la délinquance. Des robots capables, attention, non pas d'arrêter, mais de tuer les criminels.
C'est Robocop, mais pour de vrai. Et c'est très sérieux, le département de police de San Francisco a demandé officiellement au conseil municipal, qui doit statuer aujourd'hui, l'autorisation de déployer des robots qui pourraient neutraliser un suspect. Alors dans des cas extrêmes, où la vie de civils est en jeu, alors c'est pas des humanoïdes façon Terminator. En fait, l'idée, ce serait d'utiliser des robots qui existent déjà, les robots de déminage, qui sont déjà équipés de balles à blanc, qui sont utilisés pour déclencher certains explosifs, sauf que là, on remplacerait les balles à blanc par des balles réelles. Alors à noter qu'il faudrait quand même une intervention humaine, c'est quand même un être humain qui prendrait la décision de tirer. Il y a déjà un précédent, lors d'une tuerie à Dallas en 2016, la police avait envoyé vers le forcené retranché un robot chargé d'explosifs qui est allé déposer une charge près du tireur qu'on avait déclenché à distance. C'était le premier meurtre par robot interposé, mais ça va ouvrir une boîte de Pandore technologique, juridique, éthique, philosophique. Enfin, vous imaginez bien toutes les questions qui vont se poser si on permet aux robots effectivement de tuer les criminels.
Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, les robots sont déjà utilisés un petit peu partout dans le monde, non, par la police?
Oui, alors de manière un peu moins extrême, mais ce sont des auxiliaires de police de plus en plus courant. À Singapour, par exemple, les autorités ont déployé des robots traqueurs d'incivilité, les vélos mal garés, les emballages jetés par terre. Alors, c'est des petits R2D2 qui se baladent dans la rue, qui sont équipés de caméras et qui sont capables de détecter tout un tas d'incivilités, des comportements sociaux indésirables. C'est comme ça que dit le gouvernement de Singapour. En Chine, ils poussent le truc un petit peu plus loin. Ils ont des modèles assez sophistiqués, mais équipés de tasers, déployés notamment dans les aéroports. Ils sont capables de poursuivre un criminel ou un malfaiteur à 18 km/h. Donc là, 18 km/h, à part si vous êtes Le champion du monde de marathon, c'est pour le commun des mortels, c'est compliqué quand même d'échapper à ce robot.
Est-ce que le but, c'est pas aussi de pallier au manque de main-d'œuvre?
C'est exactement ça. Il y a quand même une crise des vocations dans un certain nombre de pays, dans les forces de l'ordre, et comme dans beaucoup de domaines, les robots vont venir pallier ce problème de recrutement. On va leur confier des tâches qui sont pas forcément les plus glorieuses, qui sont parfois les plus dangereuses, les plus fastidieuses, les plus ingrates. Tiens, la verbalisation, par exemple, c'est pas forcément le truc le plus sexy pour les policiers. À Dubaï, par exemple, on a déployé des robots humanoïdes qui font 1m80 et qui servent à verbaliser verbalisé, notamment pour les amendes automobiles.
Et puis du coup, c'est moins tentant de contester. On ne négocie pas avec un robot.
C'est plus compliqué, surtout s'il a des armes.
Voilà, les robots policiers, c'est déjà demain avec Anthony Morel. À retrouver en podcast, évidemment, sur l'appli RMC à 5h55. C'est l'heure d'Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Arthur Asquin, tu nous parles ce matin d'un salarié, bah ça va beaucoup intéresser Anthony Borel, un salarié viré de sa boîte parce qu'il n'était pas assez fun.
Oui, tout commence en 2011, lorsque cet homme, Monsieur T, est recruté par la société Cubic Partners en tant que consultant senior. Et dans cette entreprise, on aime bien... Les salariés sont clairement incités à certains excès lors des pots et autres séminaires.
La coque et les putes, mon pote.
Oh, et ben ça, oh, et ça n'a pas vraiment plu à notre consultant qui lui est plutôt du genre.
Je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai jamais pris de drogue.
Et ça ne l'empêche pas d'être nommé directeur en 2014. Mais un an plus tard, il est licencié sèchement pour insuffisance professionnelle, notamment pour son refus d'adhérer aux valeurs, je cite, fun et pro de l'entreprise.
Ouais, non mais attends, ça tient ça légalement?
Eh bien, la Cour de cassation vient de lui donner raison à ce monsieur T. Non, on ne peut pas se faire virer parce qu'on n'est pas assez fun aux yeux de ses supérieurs. D'ailleurs, dans son arrêt rendu le 9 novembre dernier, la Cour note que la soi-disant culture fun et professionnelle de la boîte consistait non seulement à boire avec excès à la moindre occasion, mais surtout à des brimades, des simulations d'actes sexuels et d'autres dérapages en tout genre du meilleur goût. L'ex-employeur a été condamné à lui verser 3 000 euros à ce monsieur T.
Oui, donc on ne peut pas être viré parce qu'on ne participe pas au beuverie d'entreprise.
Exactement.
Je comprends bien.
Voilà.
Et donc voilà, Anthony, tu ne risques rien.
Il n'y a pas de risque.
Tous ces jeux de mots ratés depuis des années maintenant ne te seront pas reprochés. Voilà.
Je note.
L'honneur est sauf. 5h57 sur RMC. Les infos approchent, mais pour bien se réveiller, la petite info bonus. Avec Anaïs, plusieurs tournées annoncées hier, il y en a pour tous les goûts.
Oui, d'abord avis aux fans de Metallica, le groupe de heavy metal américain a dévoilé ça hier. Extrait de leur prochain album qui sortira en avril prochain. Et il va faire une grande tournée mondiale à partir de l'année prochaine. Une tournée qui s'arrêtera au Stade de France les 17 et 19 mai 2023. La billetterie ouvre à 9h vendredi matin, notez-le bien. Dans un style différent, The Weeknd sera également en France l'année prochaine à l'Alliance Riviera de Nice le 22 juillet, au Stade de France le 29 et à la Matmut Atlantique de Bordeaux le 1er août 2023.
Donc tournée des stades en France au mois de juillet, Metallica aussi au Stade de France au mois de mai. Voilà les infos concerts du jour. Et puis l'info météo tout de suite, Géraldine Demory. Ce sont ces températures qui commencent doucement à baisser.
Mais ce sera surtout cet après-midi. On va commencer à sentir la baisse. Alors on va se rapprocher des normales de saison cet après-midi avec 7 degrés à Lille, à Grenoble, 9 à Paris, Nancy, Lyon, Clermont-Ferrand, 11 à Toulouse, 12 à Marseille ou La Rochelle, 13 à Bordeaux comme à Brest, jusqu'à 15 à Montpellier. Puis petit à petit, on va aussi avoir un temps de plus en plus calme. On a encore un petit peu de pluie vers les frontières de l'Est, quelques averses au sud de la Garonne avec un peu de neige en montagne. Mais partout ailleurs, ce sera un temps sec assez égal. Gris, hein, grisaille qui sera bien tenace, notamment entre les frontières du Nord, la Normandie, le centre, l'Île-de-France, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la suite, les températures qui vont baisser de plus en plus. Demain, on pourra commencer à avoir quelques gelées en plaine. Jeudi 1er décembre, on va passer sous les normales de saison. Alors, on gardera toujours un temps calme. À partir de vendredi, il faudra se méfier des averses près de la Méditerranée. Et puis le week-end qui s'annonce bien frisqué, avant sans doute des températures à nouveau en hausse dès le début de la semaine prochaine.
Mardi 29 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 6h, vous êtes bien sur RMC. Bon courage hein, si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot, on vous accompagne et on vous informe avec le journal présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Centavolt produit de nouveau de l'électricité. La centrale à charbon a redémarré hier pour éviter les coupures cet hiver. Un break, nos élus en auraient bien besoin. Certains frôlent le burn-out, un rythme effréné. Ils réclament du changement. Réunion prévue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Karim Benzema n'est pas apte à jouer. RMC vous le confirme ce matin. La rumeur d'un retour au Qatar ont enflammé la presse espagnole hier.
Le froid arrive et la centrale à charbon de Saint-Avold vient de redémarrer.
Le gouvernement l'avait fermée en mars dernier, mais les principes écologiques ont laissé place au principe de réalité. Sa production d'électricité est indispensable au moment où la France doit se chauffer et ne peut pas compter sur le nucléaire. Direction la Moselle ce matin avec les 70 salariés licenciés, finalement rappelés hier pour faire tourner la machine, Bettina de Guglielmo.
Cette remise en service sonne comme une douce revanche pour les 70 employés de la centrale. Jean-Pierre Dame est délégué syndical Force Ouvrière.
Nous le vivons comme un signe d'avoir eu raison lorsque nous disions qu'il était prématuré de fermer cette centrale au mois de mars. Or, cette question, elle a été évacuée, à mon avis, trop hâtivement, d'autant plus que nous avions les premiers échos qu'il y avait de fortes probabilités de devoir redémarrer pour cet hiver.
En début d'été, la direction de la centrale a dû rappeler tous ses salariés licenciés. D'importantes primes leur ont été proposées. La quasi-totalité est revenue, mais tous s'inquiètent pour l'avenir. La centrale va-t-elle refermer au printemps prochain? Pour tenter d'avoir une réponse, Alexandre Loubet, député RN de Moselle, a interpellé le gouvernement.
Ni l'industriel, ni les salariés qui ont été méprisés n'ont de visibilité sur le nombre de saisons d'exploitation de cette centrale à charbon. Je pense qu'en réalité, le gouvernement n'a pas le courage d'assumer au regard de l'abandon du parc nucléaire français dont il est responsable, eh bien on va devoir faire tourner la centrale à charbon de Saint-Avold une année supplémentaire au moins.
La centrale de Saint-Avold alimente environ 600 000 foyers. Cela représente un tiers des ménages de la région Grand Est.
6h02 sur RMC, vous n'allez plus jamais regarder votre pot de yaourt de la même manière. Ce sont de petites bombes polluantes. Le problème, la plupart sont composées de polystyrène, un matériau mauvais pour la santé et surtout très difficile à recycler. Il en sera question lors d'une conférence de l'ONU cette semaine en Uruguay pour négocier un traité qui endiguerait la pollution au plastique. Quasiment 9 millions de tonnes finissent chaque année dans l'océan. Et la France a son rôle à jouer. Ces pots de yaourt, on en consomme des milliards chaque année, Mathieu Limongier.
Sur les 15 milliards de pots consommés chaque année en France, seuls 2% sont recyclés. Chez Jérémy, les yaourts s'étalent à chaque repas. Face aux chiffres, il peine à réaliser l'ampleur de ces déchets. Pour lui, les Français ne sont pas assez informés.
Je pense que si vous demandez à beaucoup de gens, je ne pense pas qu'ils sachent que dans les pots de yaourt, il n'y a que 2% qui sont recyclés. Donc, encore une fois, ça marche par la sensibilisation aux choses et c'est vrai qu'il faudra trouver une alternative.
Plus sensible à la question, Laurent a décidé d'agir. Il achète des pots en verre directement chez le producteur.
Plus local et plus éco-responsable. Moins de déchets, ça vaut le coup.
Mais il a aussi une autre solution.
Faut boycotter en masse. Ça a toujours fonctionné. C'est le seul réel levier d'action du consommateur.
Un avis partagé par Jimmy Pain, député Modem du Morbihan. En France, aucun centre de recyclage ne parvient à traiter le polystyrène qui finit enfoui sous terre puis dans l'océan. Alors voilà 2 ans qu'il s'est engagé sur la question.
Ce polystyrène, on n'arrive pas à le repérer sur les chaînes de tri. Il faut vraiment tout faire pour l'écarter.
Alors le mot boycott est un mot un petit peu fort, mais je crois que c'est aux consommateurs de prendre ses responsabilités. Les industriels s'adapteront toujours aux consommateurs.
Autre piste pour réduire l'impact environnemental, préférer les pots plus volumineux aux emballages individuels, comme c'est le cas au Portugal ou au Royaume-Uni.
C'est une première depuis 20 ans. Les bouchers dans la rue aujourd'hui. Le prix de l'énergie menace la profession et pour cause, 38% d'entre eux ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, qui est d'ailleurs prêt à recevoir et à revoir le mécanisme. Manifestation devant l'Assemblée nationale à partir de 11h. Ces bouchers croiseront sûrement des députés épuisés, car oui, c'est le gros coup de fatigue. Nos élus ont du mal à tenir le rythme des séances, séances souvent nocturnes, à tel point qu'une réunion a lieu aujourd'hui pour réfléchir à un nouveau fonctionnement. Que se passe-t-il dans l'hémicycle? Les élus travaillent-ils plus qu'avant? Romain Cluzel a compté pour RMC.
Entre les premiers mois à l'Assemblée en 2017 et en 2022, on ne peut pas dire que le rythme ait vraiment augmenté. D'après les statistiques de l'Assemblée, il y a 5 ans, les députés ont passé 43 heures de plus en hémicycle que cette année. En revanche, le temps en commission est plus important, 16 heures de plus en 2022. Le gros changement, c'est que les députés ne peuvent plus se permettre de faire l'impasse sur certaines séances et donc récupérer quelques heures précieuses de repos. La raison, la majorité relative. Si trop de députés sont absents, un camp ou l'autre risque de perdre le vote sur un texte, ce qui donne assez régulièrement des séances très suivies jusqu'au milieu de la nuit. Impossible à tenir sur le long terme, estiment des députés de tous les bords. Parmi les propositions pour assouplir le rythme, mettre fin aux sessions après 21h ou encore consacrer certaines journées ou certaines semaines à la présence en circonscription.
Et d'ailleurs, ça vous fait réagir ce matin cette question. Est-ce que vous comprenez ces députés qui veulent alléger, on va le dire comme ça, leur rythme de travail? Vous prenez la parole en toute liberté, on vous attend dans C'est votre avis à 6h40 tout à l'heure avec Apolline de Malherbe dans Apolline Matin.
En bref, la motion de censure des députés LFI rejetée, motion déposée en riposte au 6e 49-3 actionné par Elisabeth Borne vendredi dernier pour faire passer un texte budgétaire. Emmanuel Macron lui est attendu aujourd'hui aux États-Unis pour une rencontre avec le président américain Joe Biden, une première rencontre, discussion au programme sur l'Ukraine et les mesures protectionnistes américaines.
RMC, Coupe du monde de la FIFA 2022.
La famille des qualifiés s'agrandit après la France. Bienvenue au Brésil. Succès 1-0 contre la Suisse hier. Les Brésiliens ont joué leur premier match sans Neymar, toujours blessé à la cheville. Le Portugal aussi, Cristiano Ronaldo et sa bande ont battu l'Uruguay 2-0. Les Bleus, eux, joueront leur dernier match de poule demain face à la Tunisie. Et ça sera bien sans Karim Benzema. Hier, la presse espagnole s'est un peu emballée sur un possible retour du Ballon d'Or au Qatar, Arthur Perrault.
Oui, la presse espagnole s'est enflammée, mais selon nos informations, Benzema n'est pas apte pour le moment. L'attaquant va bien reprendre l'entraînement ce jeudi à Madrid, mais loin de ses coéquipiers, la raison, il poursuit sa convalescence en suivant un protocole de reprise strict 10 jours après avoir été touché au quadriceps de la cuisse gauche. Un coup dur l'obligeant à mettre un terme à sa Coupe du Monde, mais Benzema reste officiellement inscrit sur la liste des Bleus, ce qui, selon le règlement, lui offre la possibilité de revenir en sélection. Seul Didier Deschamps peut décider, une infime chance, presque nulle, à moins de 3 semaines de la grande finale du Mondial.
4 matchs à suivre en direct aujourd'hui sur RMC, l'après-midi 16h Pays-Bas, Qatar, puis en même temps, Équateur, Sénégal, et ensuite ça sera à 20h, l'Angleterre joue sa qualification, les Anglais affrontent le Pays de Galles, dernier du groupe, dans le même temps les États-Unis affronteront l'Iran.
Et c'était le journal de Marguerite Dumont qu'on retrouve à 7h pour un prochain journal sur RMC et RMC Story. Oui, ça démarre sur la TNT, le canal 23, Apolline Matin, dans 20 minutes maintenant, en direct à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Story. D'ici là, d'ici 6h30, on aura aussi notre rendez-vous économie avec Emmanuel Lechypre, la story de la Coupe du Monde avec Thibaut Texer, mais tout de suite.
On va parler énergie puisque la centrale de Saint-Avold en Moselle vient de rouvrir, une centrale à charbon qui pollue, qui est très polluante, mais qui devrait permettre d'éviter les coupures de courant cet hiver. Le gouvernement avait pourtant fermé la centrale en mars dernier, sauf que la guerre en Ukraine et les problèmes du parc nucléaire français sont passés par là.
Oui, nos principes écologiques rattrapés par le principe de réalité. On va en parler avec Thierry Brault, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions d'énergie. Il est notre invité tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna. Charles Magnin.
6h09 sur RMC. Bon réveil à tous.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Thierry Brault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. On a appris hier donc la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Centrale très polluante qui avait en théorie été définitivement fermée au mois de mars dernier. Je rappelle que le gouvernement affiche toujours l'objectif de sortir du charbon. Mais entre-temps, la guerre en Ukraine est passée par là, tout comme les problèmes du parc nucléaire. Résultat, pour sécuriser l'approvisionnement du pays en électricité cet hiver, la centrale de Saint-Avold s'est remise à tourner hier. Les salariés ont été rappelés à la rescousse, j'ai envie de dire. Thierry Brault, cette réouverture de Saint-Avold, là, c'est un peu le symbole des incohérences de notre politique énergétique, non ?
Oui, ça prouve l'échec de 10 ans de gribouille énergétique au niveau du gouvernement. Vous avez, comme vous l'évoquiez, de grands principes. Et puis, la réalité, on aurait très bien pu dire, écoutez, nous avons décidé de sortir du charbon définitivement et puis ne pas réouvrir et puis faire face à quelques délestages. Mais vous voyez que, manifestement, c'est pas très populaire. Alors, on réouvre la centrale. On va à la COP en disant, on va sortir des énergies fossiles. On revient et on réouvre cette centrale.
Oui, parce qu'on va rappeler qu'elle est très émettrice de CO2. Il faudra plus de 500 000 tonnes de charbon pour la faire tourner dans les 4 prochains mois. Et en fait, c'est l'urgence du chauffage des Français là, qui a pris le pas sur l'urgence climatique.
Et oui, parce que ce qu'on a oublié, c'est que dans l'énergie, il faut de la flexibilité. En décembre, on consomme 3,5 fois plus de gaz qu'au mois de août, et on consomme quelque chose comme 60% de plus d'électricité. Donc on est bien obligé d'avoir de la production pour la pointe, et ça, évidemment, on avait oublié. On s'était dit que finalement, tout ceci pouvait on pouvait s'en passer. Malheureusement, vous voyez, on en a besoin.
on en a besoin, et puis c'est presque symbolique parce que on sait aussi que pas loin justement de Saint-Avold, en Allemagne, on a fait un choix complètement inverse ces dernières années. On a fermé le parc nucléaire pour miser sur le charbon. Là, il y a eu aussi une incohérence européenne, non, sur ces questions.
Ah oui, oui, mais ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien de nouveau. C'est ce que l'Allemagne a fait entre 2011 et 2014. Vous fermez les centrales nucléaires et vous êtes obligé de réouvrir des centrales à charbon. C'est ce qui a été fait en Allemagne. Donc les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences.
Alors donc si on réouvre Saint-Avold, bah, c'est pour réussir, pour tenter de passer l'hiver sans délestage, comme vous dites, sans coupure, sans blackout. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, se veut rassurant pour le mois de décembre. En revanche, il y a des risques, nous dit RTE, encore pour le mois de janvier.
Et oui, parce que nous avons, encore une fois, pas suffisamment de nucléaire, puisque notre nucléaire est en partie à l'arrêt, et que la sobriété énergétique heureuse que l'on avait mise dans nos feuilles Excel n'existe pas. Nous sommes face à une sobriété énergétique subie, et encore une fois, il n'est pas sûr que les Français soient très contents de devoir se chauffer seulement à 19 degrés, de devoir effectivement décaler leur chauffage, etc., etc. Donc, encore une fois, le gouvernement fait face au principe de réalité.
Mais les Français semblent jouer le jeu de la sobriété. La RTE parle d'une baisse de consommation de 5 à 7% ces dernières semaines par rapport à la normale. Tout l'enjeu, si j'ai bien compris, désormais, là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a rouvert Saint-Avold, on est revenu sur nos principes au niveau du charbon. Le seul levier qui reste, hein, c'est la capacité d'EDF à remettre certaines centrales en service d'ici janvier, à respecter son calendrier, c'est ça?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord. La sobriété, elle ne se voit pas dans les données de RTE. Ce que l'on voit dans les données RTE, vous avez raison, c'est une baisse de la consommation. Reste à savoir d'où vient cette baisse de la consommation. Mmh. Et selon RTE, c'est plutôt de la consommation industrielle. Donc, en fait, ce que l'on est en train de faire en France en ce moment, c'est une désindustrialisation de la France. On est en train de fermer des sites industriels. Je ne suis pas du tout sûr que la sobriété énergétique soit là. Ensuite, vous avez raison, EDF est en retard pour la remise en route de ses réacteurs nucléaires. Cela pose un problème pour l'équilibre offre-demande. Mais il faut bien comprendre que dans l'énergie, l'équilibre offre-demande sera à l'instant T sur l'électricité fait et à l'instant de la saison sur le gaz. Et donc, si vous avez moins d'énergie, eh bien, à la fin, vous serez obligé de consommer moins, c'est-à-dire de désindustrialiser la France.
Oui, et donc voilà, une perspective pas forcément réjouissante, mais voilà, le gouvernement espère qu'avec cette réouverture de Saint-Avold, on va limiter la casse dans les semaines et les mois qui viennent, quitte à revenir sur nos principes écolos et sur les objectifs affichés. Merci Thierry Brault, hein, prof à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, d'être venu faire le point avec nous sur ce qu'on peut appeler des incohérences de la politique énergétique française des derniers mois et même des dernières années, comme vous nous l'avez très bien expliqué. Et puis, la question de l'énergie, c'est aussi la question du prix des factures, là, dans les semaines et les mois qui viennent, et ça inquiète particulièrement en ce moment les artisans. Vous êtes très mobilisés ce matin sur RMC. On va accueillir William, qui est boulanger dans l'Ain. Bonjour William.
Bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
William, on s'inquiétait à l'instant avec Thierry Brault des questions d'approvisionnement, de blackout, de coupure, mais pour vous, l'urgence, c'est surtout le prix de l'énergie, là, de vos factures.
Alors, aujourd'hui, j'entends parler partout, janvier, mois de janvier, amortisseur énergétique, etc. Déjà, l'amortisseur énergétique, concernant les boulangers, il faut savoir que c'est une hérésie. C'est une hérésie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les plafonds qui ont été mis en place au niveau de l'amortisseur énergétique. Aujourd'hui, sur une facture d'à peu près, allez, je vais vous donner notre facture qu'on a reçue au mois d'octobre. Octobre dernier, on payait 900 euros. Septembre, on a payé 1250. Et octobre de cette année, on a payé 7300 euros d'électricité.
Attendez, vous pouvez...
De 900 à...
En un an, de 900 à 7300 euros ?
7300 euros. L'urgence, elle est certes au mois de janvier, mais l'urgence, elle est immédiate. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vivent une urgence énergétique, qui ont du mal à se chauffer, qui ça coûte de plus en plus cher. Mais nous, en tant que commerçants, c'est aujourd'hui où on a besoin que le gouvernement fasse quelque chose pour nous aider. Sinon, on va mourir. On va mourir. Nous, notre contrat s'est renouvelé au mois de septembre. On est arrivé au terme de notre contrat. On est fourni par une régie. On n'a aucun autre fournisseur historique qui veut venir sur le secteur. Aucun qui n'a voulu nous fournir. Et la régie nous a annoncé qu'on passait de 58 euros le mégawattheure à 440 euros le mégawattheure.
Oui, donc c'est quasiment x10. C'est évidemment intenable pour votre trésorerie, pour votre chiffre d'affaires, William. Et c'est vrai que le gouvernement parle d'amortisseurs, de dispositifs spécifiques. On a encore du mal à voir la couleur, à voir concrètement comment ces aides vont être appliquées dans les semaines qui viennent. Emmanuel Lechypre vient de s'installer dans ce studio, notre monsieur économie. William, il souhaite réagir.
Oui, William, j'avais une question. Parce que est-ce que vos prix varient tous les mois en fonction des prix du marché, ou est-ce que vous allez partir sur cette base toute l'année?
Alors non, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 58 euros en prix fixe. Là, arrivé au mois de juillet, la commerciale de la régie est venue nous voir en nous disant, voilà, faut renouveler votre contrat, c'est maintenant, il n'y a plus le choix, c'est ce prix-là, sinon vous n'aurez pas de contrat, on ne sera pas capable de vous fournir un contrat. Donc moi, je me suis retourné vers les fournisseurs historiques, j'ai dit, attendez, on va déjà faire un comparatif, comme tout le monde fait aujourd'hui. Je me suis retourné vers les fournisseurs historiques, et aucun n'a voulu me fournir, étant donné qu'il y avait une régie.
Mais William, ma question, c'était, est-ce que si les prix de l'électricité baissent sur les marchés, comme c'est le cas là, ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que vous en profiterez ou pas dans le reste de l'année ?
Non, ce qui se passe, alors aujourd'hui, je n'en profiterai pas pour la simple et bonne raison que j'ai signé jusqu'à la fin de l'année déjà un premier contrat à hauteur de 440 euros le mégawattheure. Et pour une puissance de 18 000 kilowatts, cette puissance, je l'ai consommée, j'ai déjà consommé rien que sur le mois d'octobre 12 000 kilowatts, et voilà, c'est à peu près ce que je consomme. Donc il ne reste que 6 000 kilowatts au prix acheté à 440.
Oui, là, oui, c'est l'impasse en fait, William, au niveau de la facture d'électricité. Mais justement, les artisans, les commerçants, face à cette menace, qui sont clairement aujourd'hui, vous le dites très bien, en danger avec ces prix de l'énergie, on va en reparler ce matin dans Apolline Matin tout à l'heure à 7h40. Deux rendez-vous, un artisan boulanger, un boucher, pour faire le point justement sur cette crise de l'énergie et les commerçants, les artisans comme vous, William, directement impactés. Vous n'hésitez pas, comme William, à composer le 32-16. On va en reparler tout au long de la matinée sur RMC et dans Apolline Matin qui démarre dans un instant.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
6h20, place à l'économie.
Le chiffre du jour.
Avec Emmanuel Lechypre, le chiffre du jour, c'est un tout petit chiffre, plus 0,4%.
Oui, c'est le deuxième sommet pour l'inclusion économique aujourd'hui au ministère de l'économie à Bercy. Un sommet important puisqu'il réunira plus de 70 grandes entreprises françaises, et important aussi à cause de l'impact sur la croissance de ces politiques d'inclusion. Les travaux des économistes de l'OCDE montrent que faire de l'inclusion économique, c'est-à-dire pratiquer des politiques qui consistent à réduire toutes les inégalités de chance, qu'elles concernent le genre, l'origine, la religion, le milieu social ou l'éducation, eh bien, ça pourrait générer au moins 0,4 points de croissance supplémentaire chaque année d'ici 2030, et créer ainsi presque 10 000 euros de PIB supplémentaire par habitant. La diversité et l'inclusion, ça n'a que des avantages économiques. Ça permet de faire plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, de fidéliser les collaborateurs. Bref, des effets positifs, c'est ce que nous dit la BPI dans une étude qui vient d'être publiée.
Donc c'est le message aux chefs d'entreprise, miser sur l'inclusivité, la diversité.
C'est pas seulement pour des raisons sociales et sociétales, pour des simples raisons d'efficacité et de performance de votre entreprise.
Mais voilà, vous n'avez rien à y perdre.
Vous n'avez rien à y perdre.
Vous avez tout à y gagner. C'était le message d'Emmanuel Lechypre ce matin sur RMC à 6h22. On part au Qatar.
La story de la Coupe du Monde.
Avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Le Ghana s'est offert hier un répit dans ce mondial en battant la Corée du Sud 3-2. Les Ghanéens peuvent encore rêver à une qualif pour les huitièmes de finale face à l'Uruguay, un adversaire bien connu des Ghanéens.
2 juillet 2010, au Soccer City de Stadium de Johannesburg, le Ghana affronte l'Uruguay en quart de finale du mondial sud-africain. Un match qui entrera dans la légende de la Coupe du Monde. Déjà parce que le Ghana est la troisième équipe africaine à se hisser à ce stade de la compétition. Et puis, ce jour-là, les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Un partout à l'issue du temps réglementaire, tout va se jouer dans les prolongations. Après 120 minutes de jeu, dernière occasion pour les Black Stars. Le ballon file dans les cages vides de la Céleste. Et pour l'arrêter coûte que coûte, il y a Luis Suarez qui sauve son équipe en arrêtant sur sa ligne de but le ballon de la main, tel un gardien de but.
Sur cette semaine de Suarez, on en avait fait des tonnes pour savoir si c'était normal, s'il avait bien fait, s'il fallait pas presque l'envoyer en prison parce qu'il avait fait une main, tu vois.
Les souvenirs d'Eric Dimeco, carton rouge pour Suarez, pénalty pour le Ghana. Gyan qui a déjà loupé deux pénaltys dans la compétition à l'occasion d'entrer dans l'histoire. L'attaquant s'élance et touche la transversale. Ça se finit au tir au but. Le Ghana est éliminé 4-2.
On pense à l'histoire finie, mais 12 ans plus tard, le Ghana a l'occasion de prendre sa revanche.
Et vendredi, les coéquipiers de Jordan Ayew auront l'occasion de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale face à l'Uruguay.
Ça représente quelque chose d'énorme, surtout pour le peuple ghanéen. C'est clair que ça va être un très très gros match.
Et pour le frère de Jordan, André Ayew, aujourd'hui capitaine, l'heure n'est pas à la revanche.
Je suis le seul rescapé de ça. Alors, ça n'a rien de me trop parler. C'est un match qu'il nous faut des points pour passer au prochain tour, tout simplement.
Et si vous entrez dans un match avec l'intention de riposter, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs, expliquait à la presse l'attaquant ghanéen il y a quelques jours. Un avis que partage son sélectionneur Otto Addo.
C'est une approche et une équipe différente. Cet événement est arrivé il y a longtemps et je crois fermement que si on ne cherche pas de revanche sur ce genre de choses, parfois on reçoit encore plus de bienfaits.
Revanche ou pas, le Ghana devra gagner vendredi face à l'Uruguay afin de poursuivre son aventure au Qatar.
Et c'est vrai que c'était une scène incroyable, c'était en 2010. Je peux te vous raconter, j'étais à un mariage et la moitié de la salle était en dehors de la salle des fêtes pour regarder justement sur les téléphones. À l'époque, on captait mal, on était en 2010 et pour suivre cet Uruguay-Ghana, c'était incroyable cette scène. Bah, le débat existe encore aujourd'hui. Est-ce que Luis Suarez a bien fait? L'histoire lui a donné raison. L'Uruguay s'est qualifié. Ah,
c'est
le sauvé
héros.
De la main.
C'est un héros.
Ouais, mais c'est un acte terrible d'anti-jeu. Évidemment, c'est devenu un héros dans son pays pour ça. On verra. Revanche, donc, c'est vendredi prochain. Hein,
c'est vendredi, oui.
Cet Uruguay-Ghana qui promet, alors pas forcément du spectacle dans le jeu, mais une tension incroyable sur le terrain. C'est garanti et ce sera à vivre sur RMC. Mais déjà un avant-goût ce matin grâce à la story Coupe du Monde de Thibaut Texer. 6h25 sur RMC. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Apolline de Malherbe pour Apolline Matin.